Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Et puis c'est bonjour, 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 bonjour. Bonjour Maurice.
Quatre oui, salut.
Fois bonjour.
Salut, salut, salut.
Sur... Oui, suggestion.
Et voilà, je vous réponds pour la même manière.
Avec salut, 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 salut. En fait, on dit quatre fois bonjour parce que je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir quatre fois plus de pluie que hier.
Sûrement.
Ouais, parce que je dis tout de suite à la météo, ben je vais vous dire tout de suite, des ennuagements aujourd'hui. C'est partout dans l'est du pays, je dirais de la Saskatchewan jusqu'aux provinces atlantiques. C'est soit des averses en matinée ou soit en après-midi, risque d'orage aussi. Et puis, on est dans des maximum 21, mais c'est humide, hein? Ça va à 27. C'est beau en Colombie-Britannique et en Alberta, beau et chaud, mais c'est aussi un humidex de 28. Allô, allô, Serge Bradet.
Bonjour, bonjour, Denis Martin.
Écoute, on a beaucoup de temps avec toi parce que ce que. Puis je suis content que tu le fasses parce que ça m'aide aussi. En absence d'Isabelle Falardeau, tu mm-hmm. fais une chronique double, je vois
double,
ça.
Double, double.
Tu as travaillé fort. On parle de quoi aujourd'hui?
Très, très fort, oui. Je vais parler. Bien, la semaine dernière, je parlais d'informations insolites sur Elvis Presley.
Oui.
Là, je continue. C'est des informations insolites sur le maître du suspense. Diriez-vous un nom?
Alfred Hitchcock.
Ah, exactement. Oui, oui.
Ah,
oui.
Ces films sont
oui.
encore.
Ah, oui, oui, oui.
Sont encore bons.
Oui,
Moi, la scène dans le motel.
Ah, oui.
C'est encore une scène qui me trouble à la voir. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. Mm-hmm. Parce qu'on ne sait pas c'est qui. C'est... Oui. Puis il n'y a pas. On fait juste voir l'action. On ne voit pas. Tu sais, des fois, dans les cinémas, dans les films maintenant, c'est, mm-hmm. c'est du gore, comme ils disent. Là.
Moi, ce film-là, Psychose. Là,
oui, Psychose.
C'est la Psychose, c'est ça.
Oui.
Quand j'ai vu ce film-là, j'avais un rideau de douche qu'on ne voyait pas là.
Ouais.
C'était pas transparent. Je l'ai changé pour un rideau de douche transparent et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu des rideaux de douche transparents. Il faut que je voie à l'extérieur de la douche.
C'est fou, hein?
Je vais dans un hôtel que le rideau n'est pas transparent, je suis mal.
Ben, ça, en fait, on est tous un peu comme ça, ceux qui avons vu ce film-là.
Ouais.
Moi, je ne sais pas si j'en ferais un grand cas, mais c'est sûr que j'aime bien voir. Je vais ouvrir un peu le rideau puis avoir de l'eau qui va sortir parce que je veux voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Puis là, je me dis, on est rendu là. Et quand j'étais petit, je regardais sous mon lit s'il y avait des monstres.
Ah oui, 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 ben oui, on a tous fait ça, je pense.
Ah mon Dieu, oui, oui, oui.
Et en deuxième partie, oui. je vais vous parler, c'est plus léger, des mammifères marins qui nous ressemblent.
Ah oui?
Et puis des randonnées au Québec pour observer les baleines, les petites baleines.
Ah ça, c'est le fun, les baleines, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ben écoute, on va avoir une bonne chronique donc avec toi aujourd'hui, puis il y aura aussi des brèves, évidemment. Mm-hmm. Et puis, de mon côté, je vais vous proposer... une entrevue avec Samia Amrani sur fierté indomptable. C'est un petit bout de temps que je voulais parler de cette autre fierté qui existe depuis 2 ans ici à Montréal et qui est sous le signe hein, d'un militantisme intersectionnel. Je sais que c'est des mots qui sont toujours un peu compliqués, mais qui a beaucoup rapport avec ce qui se passe avec le génocide à Gaza et les difficultés que les organismes au Québec et un peu partout dans l'Occident ont eu à reconnaître le génocide, qui maintenant est reconnu, même le gouvernement fédéral l'a reconnu. Et donc, voir un peu avec elle comment ça s'est passé cette année, je pense que ça va être intéressant de découvrir tout ça. Et oui, les nouvelles du Canada français avec Julien Caillouette, j'aime beaucoup ça aussi, une chronique où on parle de ce qui se passe dans le Canada français. Alors, dans le temps, on disait « le reste du Canada ». C'est drôle, là, maintenant, quand j'entends ça, j'entends encore des gens le dire de nos jours. Je dis, ben oui, c'est comme si c'était les restants de l'autre côté. Mais bon, ouais. À l'époque, on avait... c'était « the rest of Canada ».
The rest of Canada,
en anglais, c'est pas des, ça n'a pas l'air des restes de table, là, mais en français, c'était un peu ça. Alors, on dit toujours, plus maintenant, le Canada français, le Canada francophone, puis c'est pas le Canada anglais, là, parce qu'il y a bien du monde qui parle français là-bas, même s'ils sont pas nombreux. J'ai vécu là longtemps, moi.
Oui, ben oui.
L'Alberta, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, alors c'est ça. Bon, hey, je placote ce matin, ça n'a pas de bon sens. Il est donc 4 minutes qu'on jase. On va aller en musique. Qu'est-ce que t'en penses, Serge?
Absolument.
Parfait, on y va. Se proprio vuoi, te lo ripeterò.
5-3-5-3-4-5-6 par Raffaella Cara.
Je t'admire, mais c'est pour ça que je trouve ça le fun. Je laisse les chansons, c'est Maurice qui doit les annoncer. Puis quand c'est un titre compliqué, le moindrement, je suis content que ce soit lui et pas moi. Raffaella Cara, c'est un grand souvenir de jeunesse pour moi et pour toi aussi, Serge.
Raffaella,
cette blondinette, elle avait vraiment beaucoup de talent. Il y a d'autres chansons, là, j'aurais pu en jouer une autre. Mais je pensais à elle, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un... Ça donne un peu d'énergie, puis me donne envie de danser. Mm-hmm. Qui est d'ailleurs décédé le 5 juillet en 2021. Raffaella Cara, qui est une chanteuse italienne. Allons-y maintenant avec les actualités aujourd'hui. Dans la presse, le Canada et les États-Unis sont parvenus à un accord de principe de dernière minute entraînant la suspension pour 3 jours des droits de douane de 50 % que Donald Trump menaçait d'imposer sur 28 milliards de dollars d'exportations canadiennes. Ces surtaxes devaient cibler le bois, le ciment, les meubles, les alcools, ainsi que le papier et le carton. Pour débloquer la situation, la relance du projet de l'oléoduc Keystone XL a été mise de l'avant. Ce levier énergétique s'est avéré déterminant dans le contexte mondial actuel, marqué par le conflit avec l'Iran et la fermeture du détroit d'Hormuz, qui ont fait grimper donc les prix du carburant aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat. Bien que le premier ministre Mark Carney ait fait état plutôt de progrès significatifs, les négociations se poursuivent dans un climat de tension. Le gouvernement canadien a déjà concédé l'abandon de la taxe sur les services numériques, le partage des péages du pont Gordie Howe et des ouvertures sur le marché laitier. De son côté, Washington envisagerait d'alléger les tarifs existants sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. L'incertitude quant à l'aboutissement final de ces discussions demeure une source de préoccupation majeure pour les milieux économiques. Dans le devoir aujourd'hui, des enseignants racisés subissent régulièrement des insultes, des propos dégradants de la part de certains élèves, ce qui fragilise gravement la rétention du personnel dans le réseau de l'éducation québécois. Un incident survenu dans une classe virtuelle à l'école Succès scolaire où un enseignant racisé et ses auxiliaires ont été visés par des attaques racistes à la suite d'un problème technique illustre l'ampleur du défi. Les représentants syndicaux et les experts universitaires soulignent que cette montée de l'intolérance ne vise pas uniquement les minorités ethniques, mais touche également la diversité sexuelle. Ces situations de harcèlement exacerbent la pénurie d'enseignants, incitant des professionnels qualifiés à quitter le milieu scolaire. La perte de ces enseignants prive les élèves de modèles représentatifs essentiels à leur parcours et à l'ouverture d'esprit global de la classe. Pour remédier à cette situation, les experts préconisent un soutien accru des directions d'établissement et une révision des plans de lutte contre l'intimidation afin d'y inclure la protection explicite du personnel. Des initiatives comme la sensibilisation au civisme et dès le début de l'année scolaire et des interventions administratives rapides sont avancées pour protéger les équipes éducatives. Le réseau d'enseignement du Québécois a enregistré plus de 10 000 postes d'enseignants vacants au cours des dernières années. Ouais. Alors nous, on va aller en musique.
De nous deux par Claudel.
Voilà, on vient d'entendre la voix d'Alfred Hitchcock. Écoute, alors je vais faire une blague, puis j'espère que tu n'apprendras pas mal. Je pense que la seule ressemblance, vous avez de quoi en commun, toi et Alfred Hitchcock, hein? Le crâne.
Ah oui, le coco.
La calvitie, c'est vraiment pas un problème, c'est beau, mais pour les gens qui... Je sais que les gens qui perdent leurs cheveux trouvent ça difficile, mais moi, franchement, je me dis...
Mais moi, je perds pas mes cheveux, c'est parce que je suis tanné. Le matin, là, d'aller chez le coiffeur, au mois, trois semaines, un mois, je dis, tiens, je me rase de coco.
Ah oui?
Ouais. Je l'ai laissé repousser à un moment donné, juste pour voir. Puis c'est encore assez fourni. En avant, ben, on voit, c'est sûr qu'il y a, il y a un peu de calvitie, mais j'ai encore beaucoup de cheveux.
Ouais, moi, j'ai toujours pas de cheveux gris. Puis ça, c'est mon coiffeur est la seule personne qui connaît le secret de ça. Ah. Alors, on va parler d'Alfred Hitchcock. C'était pour ça qu'on a fait jouer la musique d'ouverture de l'émission de télévision.
Mm-mm. Alors, le réalisateur de Psychose revendiquait sa chasteté.
Ah!
Eh oui. Il prenait un malin plaisir à effrayer ses collaborateurs et ne voulait pas de Marilyn Monroe dans ses films.
Ben voyons donc, toi! Oui.
Un article de Ludivine Loncle dans « Ça m'intéresse, histoire » de l'automne 2024.
Donc, c'était pas un monsieur facile, hein?
Oh non, 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 non. Pas du tout.
Ouh!
Un physique à faire peur, le futur maître du thriller? C'est ce que croit le jeune Alfred Hitchcock. Son mal-être ne vient pas de nulle part. Dans le collège jésuite où sa catholique de mère l'envoie à 11 ans, il subit les coups des professeurs et les moqueries des camarades qui rient de ses kilos en trop.
Ah bon?
Il a toujours été un peu rondouillard.
Ah, mais la grossophobie, hein, ça existait aussi à cette époque-là. Puis c'était même mainstream, on en faisait pas de cas.
Oui. Le petit Alfred se referme. Dans sa maison du quartier londonien de Leytonstone, qu'il a vu naître le 13 août 1899, il vit une enfance sans amis, entre un papa marchand de volailles et une maman au foyer sévère et protectrice. Mmh. Les années passent, mais pas les complexes. De son éternelle silhouette rondouillarde, ce fin gourmet dira adulte, « Elle est mon armure de gras. »
Ah! Oh!
Il débute au cinéma comme dessinateur. Alors, des stylos au studio, il n'y a qu'un pas. Début 1920, la Famous Players Lasky, future Paramount, ouvre une antenne à Londres. Pour Hitchcock, qui ne rêve que de grand écran, l'occasion est trop belle. Ce modeste employé d'une société de câbles électriques propose ses services comme dessinateur et avec tous ses intertitres à illustrer, parce que c'était l'époque des films muets, donc il y avait des cartons entre les scènes, le cinéma a besoin de talent et de gamins, et ce gamin de 20 ans est tout doué. N'est-ce pas à lui que son entreprise a confié la création de ses publicités? Sa force de travail et son perfectionnisme feront le reste. Très vite, Alfred Hitchcock est embauché comme chef des intertitres avant de passer par tous les métiers du cinéma, puis de réaliser, en 1925, son premier film, « Le jardin du plaisir ».
Jardin du plaisir.
Ouais, ce sera un film muet, je comprends bien, là.
Mais on n'est pas dans des... Est-ce qu'on est déjà dans les trailers? Je pense pas, hein? Jardin du plaisir.
Je ne sais pas, c'est un film que je n'ai pas...
Moi non plus,
j'ai
jamais vu ce film. Je ne savais même pas qu'il avait fait un film qui s'appelait « Le jardin du plaisir ».
Oui, « Le jardin du plaisir », oui.
Ouais.
Sa demande en mariage est inattendue. 54 ans durant, elle aurait été sa femme, son double, son rock. Elle, c'est Alma Reville, Madame Hitchcock à la ville. Quand, en 1923, sur un tournage, il croise ce bout de femme aux cheveux roux, le jeune Alfred a le coup de foudre. Sauf qu'il n'est encore qu'un assistant, tandis qu'elle est déjà une monteuse reconnue. Cette pionnière occupe le poste féminin le plus important du cinéma européen d'alors. N'est pas rien. Il faut à ce grand timide un voyage en Allemagne en 1926 et, les vomissements d'Alma, prise de mal de mer sur le paquebot du retour, pour qu'il la demande en mariage. « Il fallait que je vous surprenne quand vous seriez trop faible pour dire non », lui avoue-t-il.
Ah mon Dieu!
La future épouse sera aussi la mère de son unique enfant, Patricia, et sa plus proche collaboratrice, qui retravaillera ses scripts et ses scènes.
Le mal de mer, faut que je fasse une intervention. Le mal de mer, c'est vraiment épouvantable.
Ah oui,
moi, j'en ai jamais souffert, sauf que j'ai une condition qui fait que de temps en temps, j'ai des étourdissements.
Ah.
Et c'est pas compliqué, j'ai la nausée tellement Puis ça, je pense que ça ressemble à ça un peu, le mal de mer. Ouais.
Ah non, c'est affreux. Ceux qui ont ça, là, c'est horrible.
Ah non, moi, je ris pas de ces gens-là. C'est carrément pas drôle. Puis ça se traite difficilement.
Et Hitchcock avait la phobie de deux choses.
Ah oui?
Auriez-vous une idée de quoi?
OK, attends, je vais me lancer pour demander à Maurice aussi. Moi, je dirais qu'il y avait la phobie des bibittes.
Non.
Et puis qu'il y avait la phobie des cadres tout croches quand il allait dans un bureau. Ça, c'est la mienne en passant. Moi, je rentre dans des bureaux, puis sans même m'en rendre compte, je vais tout remettre tout droit.
Ouais.
Maurice?
Les oiseaux.
Ben non. Vous êtes loin, tous les deux. J'étais très loin, moi aussi, avant de lire l'article. Et elle avait la phobie des œufs.
Voyons!
Ben oui. Et de la police. Police, on peut comprendre un petit peu, mais c'est quand même bizarre. C'est que le virtuose de la peur a la chair de poule à la vue d'un œuf. Avez-vous jamais vu quelque chose de plus répugnant qu'un jaune d'œuf se brisant et répandant son liquide jaune? Demande-t-il. Ce n'est pas la seule frayeur d'un homme pétri d'angoisse et trop effrayé par ses propres films pour les voir, parce qu'il ne voyait pas ses films, apparemment. La police, c'est son grand cauchemar, son deuxième grand cauchemar.
Et voyons.
Ce traumatisme daterait du jour où son père l'envoya au commissariat avec un mot disant qu'il n'avait pas été sage. Un policier, de mèche avec le papa, aurait alors enfermé le garçon de 5 ans dans une cellule durant 10 longues minutes.
Ben voyons donc.
Résultat, une peur panique de l'uniforme pour le restant de sa vie et un cinéaste qui ne conduira jamais par crainte d'être arrêté. Incroyable. Figurant un jour, il en a fait un gag. Une silhouette avec un chapeau de cow-boy derrière une vitre dans Psychose. Un monsieur qui rate son bus dans La mort aux trousses ou un réparateur de pendule dans Fenêtre sur cour. Le point commun entre ces figurants de l'œuvre Hitchcockienne,
ouais.
Ils sont tous joués par le réalisateur lui-même.
C'est vraiment une bouche pleine, hein?
Oui. Au total, cet Américain d'adoption apparaît dans 41 de ses films.
Ah!
Et beaucoup, oui. Une petite apparition, 5 secondes, 10 secondes, là, mais assez pour qu'on le reconnaisse.
Il faisait des caméos, hein, beaucoup.
Oui. Ouais. Ce fut d'abord par nécessité quand, en 1926, sur le tournage de son long-métrage « Les cheveux d'or », il manquait un figurant. Hitch était alors proposé pour jouer cet homme de dos que l'on voit à peine dans le bureau d'un journal. Plus tard, c'est devenu une superstition et ensuite, c'est devenu un gag, confiera-t-il. Mieux, les caméos, apparition furtive à l'écran, vont devenir sa marque de fabrique que les spectateurs guetteront à chacun de ses films.
Mmh.
Bon, la première fois que j'étais allé voir un film de Hitchcock, j'étais avec des gens qui connaissaient, qui avaient déjà vu les films, puis ils ont dit, c'est le fun, on va surveiller à quel endroit il apparaît là, dans le film.
Il y a beaucoup de cinéastes qui font ça, puis oui. Beaucoup d'auteurs. Hein, Xavier Dolan est souvent il est dans tous ses films, oui. D'une façon ou d'une autre. Mmh. Puis je pensais aussi à Simon Boulris. Il fait des émissions de télé, puis il y a toujours un rôle, que ce soit un petit rôle, une apparition, il est toujours là aussi. Ah. Ouais.
Hitchcock revendique sa chasteté. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'une femme faisait pour avoir un enfant, et encore moins ce que faisait un homme quand il était avec sa maîtresse.
Aïe, aïe, aïe.
Le cinéaste le dit sans détour, quand il a rencontré sa future femme à 24 ans, il était encore vierge. Complexé, il n'aurait même fait l'amour qu'une fois dans sa vie avec Alma pour concevoir sa petite Patricia. Mais si ses sentiments pour son épouse sont aussi chastes que sincères, son rapport à la sexualité n'en est pas moins complexe. Ses films parlent pour lui. La charge érotique y est souvent très forte, comme cette façon presque fétichiste de s'attarder sur le chignon de Kim Novak dans Sueur froide, ou ce train de la mort aux trousses qui s'engouffre dans un tunnel alors que les deux héros s'enlacent.
Ah.
Il a participé à un film sur la Shoah.
Ah oui?
Oui. En 60 ans de carrière, ce sont les images qui auront le plus glacé le sang du maître de l'angoisse. Ce qu'on y voit, des déportés rescapés et des charniers de corps décharnés. La mort sur pellicule noire et blanc. Ce film, Memory of the Camps, est un montage de séquences tournées par les Alliés à la Libération. C'est Sidney Bernstein, un ami d'Hitchcock, qui dirige ce documentaire sur la Shoah produit en 1945 par l'armée britannique pour secouer et humilier les Allemands. Importante mission à laquelle il associe son copain cinéaste qui lui conseille ceci. Privilégier les plans longs, sans coupure, histoire de démentir tout trucage et de prouver la véracité d'images auxquelles personne ne peut alors croire.
Ah.
Et qui, de l'aveu d'Hitchcock à la fin de sa vie, ne l'auront plus jamais quitté. Ces blagues douteuses ne font rire que lui. Le monstre du septième art aime donner des sueurs froides à l'écran comme en coulisses. Acteur, technicien, scénariste, personne n'échappe à ces blagues douteuses. Ce grand phobique prend plaisir à jouer avec les peurs des autres en leur offrant des boîtes pleines d'araignées ou de souris. Et qu'importe si la farce va trop loin, comme ce jour où Hitchcock donne un laxatif à un accessoiriste.
Ben non!
En lui faisant croire qu'il s'agit de brandy. Mais attendez, pas fini, là. Attends un petit peu. Lors d'un pari, le malheureux là, avait juré qu'il passerait la nuit sur un plateau, soi-disant hanté, seul dans le noir et menotté à une chaise. On ose imaginer la scène au petit matin avec une victime souillée et humiliée et un sadique qui jubile.
Quelle affaire.
Le méchant.
C'est vraiment méchant!
Oui, oui. Il est prêt à tout, M. Hitchcock, pour terrifier ses spectateurs. Certes, il aura fallu à Hitch une semaine de tournage et 70 prises pour une séquence de 45 secondes, mais quelle scène! Celle de la douche dans Psychose.
Ah, c'est emblématique, hein?
Une semaine de tournage.
Une semaine de tournage.
Oui. Ces images où l'on voit la comédienne Janet Leigh se faire tuer à coups de couteau alors qu'elle se lave dans la salle de bain d'un motel sordide ont terrifié des générations de spectateurs depuis la sortie du film en 1960, dont moi. Je suis un de ceux-là. L'ombre du meurtrier derrière le rideau, les hurlements glaçants de l'héroïne et tout ce sang qui gicle dans une douche immaculée. Hitchcock veut que le public ressente physiquement l'effroi de la victime. Et pour ce faire, il tient à tout prix à surprendre. Les acteurs ne doivent pas donner d'interview, l'entrée aux séances est refusée aux retardataires et ils tentent d'acheter tous les exemplaires du roman dont est tirée Psychose pour garder l'intrigue secrète. Marilyn Monroe n'est pas son genre. Je ne crois pas qu'une femme doit avoir le mot « sexe » tatoué sur la peau. La voilà prévenue, Marilyn Monroe, qui rêvait de travailler avec le grand cinéaste, devra passer son chemin. La raison? La plantureuse star est l'opposé de sa femme parfaite. Blonde et majestueuse, froide et mystérieuse, mais le feu sous la glace. Plus qu'une préférence, c'est une obsession. D'Ingrid Bergman à Kim Novak, en passant par sa chouchoute Grace Kelly, princesse de Monaco après ça, le père du film à suspense ne tourne plus sans une blonde hitchcockienne. Mais en 1963, l'obsession vire au harcèlement. Sur le tournage des Oiseaux, le sexagénaire s'éprend de Tippi Hedren alors que la jeune actrice se refuse à lui. Et fou de rage, Hitchcock surveille ses fréquentations, l'embrasse de force et cruelle, se venge sur le tournage en faisant lancer sur elle, 5 jours durant, des oiseaux vivants. L'un d'eux manque de crever l'œil à la pauvre Tippi traumatisée et cauchemardesque comme dans un film de Hitchcock.
Et on va aller à la pause, mm-hmm. On va revenir à terminer cette chronique-là. Plus je t'entends, j'ai l'impression que finalement, Me Too, ça a commencé bien avant... ce qu'on a eu récemment, parce
ouais.
que quel comportement détestable.
Hein? Ah oui.
On penserait pas ça. Ah, c'est on en découvre des choses à cette émission de radio. Merci, Serge Bradet. On revient après la pause avec toi dans 2 minutes, puis on termine cette partie de la chronique et on en fait une autre.
D'accord.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Eh bien, je pense qu'il restait des petites choses à dire sur ce personnage aussi sympathique qu'on l'aurait cru.
Non, c'est ça.
C'est vrai, quand on le voyait en onde à la télévision, il avait l'air d'avoir de la bonhomie à son sujet.
Ben oui.
Mais c'était pas tout à fait ça.
Non. Il a été refusé à Disneyland.
Ah!
Un cinéaste aussi mythique que lui, Walt Disney, qui lui refuse l'entrée de Disneyland au début des années 1960. Hitch aurait bien aimé y tourner quelques scènes, mais pour le père de Mickey et producteur de Cendrillon, pas question de laisser l'homme responsable du répugnant Psychose tourner dans son parc d'attractions à l'univers merveilleux. Non, tu tournes pas. La fin de sa vie manque de suspense. Une mort sans suspense ni coupable. Juste une fin de vie tristement banale où la maladie est devenue le quotidien d'un cinéaste presque octogénaire. Depuis les années 70, Hitchcock souffre d'une terrible arthrite au genou, sans compter que la santé d'Alma, sa femme, depuis son attaque cardiaque sur le tournage de Frenzy en 1972, le mine. Alors, pour apaiser la souffrance, Hitch se met à boire. Du whisky et du champagne qu'il s'enfile en regardant des films, toujours les mêmes, des James Bond, comme Bon baiser de Russie et sa scène de l'hélicoptère qui évoque étrangement l'avion traquant Gary Grant dans La mort aux trousses. Le 29 avril 1980, clap de fin, Alfred Hitchcock, 80 ans, meurt dans son sommeil à son domicile de Bel Air à Los Angeles, entouré des siens, et ses cendres sont dispersées dans le Pacifique.
Ah, mais c'était quand même un génie du cinéma. Oui. On n'y enlève pas ça. Mais là, on se rend compte que c'était... Ben, je pense que ça aurait été un cas de Me Too.
Oui, et il n'a jamais eu l'Oscar dont il rêvait.
Ah ben non, c'est vrai.
Non. Et il a été anobli par la reine Élisabeth II comme chevalier de l'Empire britannique, là. Mais ils ont annoncé sa nomination. Et puis la remise de la décoration, ça se fait plusieurs mois plus tard, puis il est mort entre-temps.
Oui. Ben, on est passé à côté. Alors, on a une autre chronique. Hein? C'est mammifères marins qui nous ressemblent.
Oui.
Là, t'es pas en train de me dire que je ressemble à une baleine?
Non. Alors, les mammifères marins qui nous ressemblent.
Dauphins, ça m'amuse.
Oui, c'était, dans le, c'était un article de la rédaction dans le TV Hebdo. C'est la biologiste Vicky Penneau qui est passée à une émission de télévision et elle a plongé dans l'univers fascinant des baleines et de leurs surprenants points communs avec nous. De quoi nous faire voir le plus grand animal du monde autrement. La baleine à bosse et sa sensibilité touchante. La baleine à bosse est reconnue pour certains de ses comportements troublants. Des observations ont démontré que des individus ont protégé des phoques lors d'attaques d'orques, allant jusqu'à les hisser sur leur dos pour empêcher les prédateurs d'approcher. Cute, hein? Peut-on parler d'empathie? La biologiste nous garde contre les pièges de l'anthropomorphisme, cette tendance bien humaine à prêter nos émotions aux animaux. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il s'agit d'empathie, mais ces gestes soulèvent des questions fascinantes sur la sensibilité de ces géants des mers. Ensuite, la baleine bleue et ses appels interurbains. Ben elle a téléphone, pas nous appelle.
Ben oui, là.
On a longtemps cru que la baleine bleue vivait en solitaire. Pourtant, son chant, composé d'ondes basses et stables, peut parcourir des distances impressionnantes sous l'eau. Une baleine, au Québec, pourrait ainsi être entendue jusqu'aux côtes européennes.
Ben voyons.
Cette capacité de communication à très longue distance remet en perspective notre définition de la solitude. Après tout, nous aussi pouvons sembler seuls, tout en étant constamment connectés.
Ah, mon Dieu. Et sans téléphone portable, la baleine.
Oui,
ça va
exactement.
Bien.
Exactement, oui, oui, oui. L'orque est sa façon intrigante de communiquer. Les différentes familles d'orques n'utilisent pas toutes les mêmes sons. Accent ou langue distincte, le débat est toujours ouvert. Certaines signatures sonores semblent même propres à chaque individu, laissant croire qu'il pourrait avoir une forme de prénom. Hein? Une hypothèse qui change complètement notre perception de ces impressionnants prédateurs. Ils s'appelleraient par leur prénom.
Ah, oh, mon Dieu! Mais c'est quand même, hein, la nature a des fois, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point la nature nous, nous surpasse.
Oui, oui, oui. Deux émissions que j'adore, moi, Découverte, La Semaine Verte, et les autres documentaires sur tout ce qui est nature, le monde, qu'on en apprend des choses.
Mais le danger, c'est que les gens font de l'anthropomorphie. Puis, bon, moi, je sais, j'ai un animal de compagnie qui est un chien. Le chien, lui, ce qu'il veut, c'est ton attention.
Ben oui.
Alors, c'est pas qu'il essaie d'être cute. Il essaie pas d'être cute, il veut ton attention. Puis quand les gens me disent, ah, il met la tête sur le côté. Je dis toujours, vous savez pas, hein? Mais le chien, là, quand il a la tête droite, avec son museau, il ne voit pas.
Hein?
Tu vas pas aussi bien. Alors, il se met la tête sur le côté pour te voir. Mais les gens disent, ah, il me fait... Puis c'est sûr que quand il reçoit, ah, oh, t'es donc un beau petit chien, ben il va le refaire. Il va le refaire. Mais c'est pas... Puis je pense qu'il faut arrêter de faire de l'anthropomorphie puis de vraiment traiter son animal comme ce que c'est. C'est animal.
Comme un animal.
Ouais.
Le cachalot, adepte des câlins.
Ah ouais?
Eh oui. Le cachalot impressionne par la force de ses liens sociaux. Les membres d'une même famille restent très proches, se frottent les uns aux autres et multiplient les contacts physiques. Ces rapprochements, observés entre adultes et jeunes, mâles et femelles, rappellent nos accolades et nos gestes d'affection. Même avec une peau épaisse, ces géants ressentent et recherchent la proximité. Il y a un documentaire que j'avais vu où on les voyait, ils les avaient filmés, puis effectivement, ils se collaient les uns les autres. C'est impressionnant de voir ces masses-là énormes se faire des petits câlins.
Oui.
Le dauphin, c'est un cuistot des mers. Comment cela? Chez certains dauphins, on a observé un comportement étonnant. Ils frottent leurs poissons qu'ils ont capturés contre du corail, retirent certaines parties avant de les consommer, comme s'ils apprêtaient leur repas. Ce geste ne serait pas essentiel à leur survie, mais relèverait plutôt d'une préférence transmise d'un individu à l'autre. Une forme de culture animale, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de toucher la peau du dauphin.
Oui.
Mais à Cuba, c'est particulier, hein, comme peau.
Puis en fait, hein, j'ai fait des trucs qu'on devrait peut-être ne plus faire maintenant. J'étais allé dans des endroits où on a la possibilité de nager avec des dauphins.
Ah, bon, oui.
C'est pas toujours très bon pour eux autres, effectivement, la peau du dauphin, c'est assez surprenant.
C'est un peu métallique, je me rappelle.
Mais quel animal intelligent!
Ouais, ouais,
quel animal intelligent! Bon.
Alors maintenant, des randonnées pour, au Québec pour observer les baleines.
Ben oui.
Oui, un article de Marie-Ève Blanchard dans le TV Hebdo. La topographie sous-marine et l'abondance de nourriture rendent plusieurs sites du Saint-Laurent propices à l'observation des mammifères marins.
Ah ben, rien de moins.
Oui. Juillet est d'ailleurs un mois idéal pour les apercevoir. Munissez-vous de jumelles et partez randonnées le long des rives à la rencontre des fascinants cétacés. Sentier de la Pointe de l'Islet, sur la côte nord. Très court, le sentier de la Pointe de l'Islet offre toutefois la possibilité d'observer des baleines, des bélugas et de nombreux phoques aux abords de Tadoussac, où les cétacés sont bien présents de mai à fin octobre. Donc, on a encore le temps là, pour y aller. La fosse marine y remonte brusquement, piégeant d'abondants organismes nutritifs, un véritable festin pour les baleines, comme la bleue, qui engloutit une tonne de krill par jour. Mmh. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, beaucoup, ça.
Beaucoup, ça, oui. Ouais, ouais, ouais.
Le sentier est bien aménagé le long du fleuve et du Saguenay, avec des promenades en bois et quelques passages sur des rochers. Et il est bonifié de panneaux d'interprétation sur la vie des écosystèmes marins. Non loin de là, au Bergeron, le centre d'interprétation et d'observation de Cap de Bon-Désir permet d'apercevoir les baleines depuis les rochers. Un très court sentier qui s'étire de la maison du gardien du phare jusqu'à la rive traverse sur 300 mètres une jolie forêt mixte. Les campings paradis marins et mer et monde et coutours constituent aussi des endroits exceptionnels bordant l'estuaire pour l'observation des mammifères marins. Peut-être aurez-vous la chance de vous y réveiller au son du soufre d'un rocal. Mmh. Le banc de Portneuf sur la côte nord. Cet endroit enchanteur mérite d'être connu et assurément qu'on s'y attarde. Le banc de sable de Portneuf semble tout droit sorti des plus belles îles du sud avec ses longues plages. Outre le printemps, la meilleure période pour observer les cétacés s'étale de la mi-juillet à octobre, avec un pic en août et septembre pour les grands rocals bleus communs à bosse. C'est aussi un lieu idyllique d'observation d'une certaine espèce d'oiseau. L'île verte dans le Bas-Saint-Laurent.
Oui, t'as déjà fait, toi, l'observation des baleines?
Non, jamais.
Parce qu'on parlait tantôt de mal de mer. J'avoue que ça aussi, ça brasse pas mal quand on va voir les baleines. Il faut se munir de petits, je pense, de gravoles, c'est ça qu'on prend. Mais c'est fascinant. C'est de toute beauté de voir ça. Ouais.
J'avais déjà fait la traversée, moi, du fleuve, parce qu'on jouait à Rimouski, avec le Théâtre populaire du Québec, dans le temps, je ne sais plus. Puis on traversait à cette île, je pense. Et puis en plein milieu du fleuve, là, ça commençait. Là.
Ah, c'est
Il était temps qu'on arrive.
Oui, mais c'est tellement de toute beauté. Puis quand tu prends le traversier, je pense que c'est celui de Saint-Siméon, Rivière-du-Loup. À certaines périodes de l'année, tu peux voir aussi des baleines.
Oui. Oui.
Puis c'est intéressant, tu vois le jet d'eau, là, c'est vraiment, c'est de toute beauté, c'est impressionnant. Puis encore une fois, j'ai toujours hâte d'observer juste la vie autour de nous, c'est beau. Oui.
Un autre endroit, l'île verte, Bas-Saint-Laurent.
Oui.
Le nord de l'île verte est un fabuleux endroit pour observer des petits rocals et des bélugas, parfois de très près. En marchant vers l'ouest, depuis le phare de l'île, le sentier sauvage se trace à même la rive. Dans un décor salin magnifique se succèdent les panoramas de forêts et de plages sablonneuses, rocailleuses et de galets. Arrivé au bout d'en haut, il suffit de s'asseoir sur un immense rocher pour contempler de belles bêtes à une trentaine de mètres de la rive qui affectionnent ce coin pour s'alimenter. Les cétacés sont actifs de mai à octobre, avec un pic en juillet, de juillet à septembre. À l'heure du coucher de soleil, c'est encore plus magnifique. Mmh. Il y a encore beaucoup de temps pour y aller. Hein.
Oui.
Promenade des Escoumins et sentier des Moulins. Côte-Nord. Cette promenade passe en plein cœur du village des Escoumins et longe la baie avant d'atteindre le site de Pointe-à-la-Croix, d'où on peut observer de nombreux oiseaux migrateurs et des baleines. Le sentier des Moulins, qui débute derrière la poissonnerie, longe quant à lui la rive ouest de la baie et conduit jusqu'au quartier du Traversier, un site privilégié pour observer les cétacés. Les petits rorquals sont régulièrement au rendez-vous à proximité de la berge, ainsi que les bélugas, rorquals bleus et rorquals communs qui s'approchent également à l'occasion. Alors voilà, c'est, on a quand même jusqu'en octobre pour y aller, alors pas trop tard. Ceux qui ont des vacances encore à prendre.
Ouais, moi je prends des vacances du 1er au 7 septembre, mais je vais surtout aller dans la région de Québec, mm-hmm. dans ma famille, puis passer un peu de temps peut-être à l'île d'Orléans aussi. Mais j'ai déjà fait ces excursions pour voir les baleines aussi dans la baie de Fundy, Nouvelle-Écosse, quand j'habitais mm-hmm. là. J'avais même amené ma maman voir ça. Elle était tellement impressionnée. Et ça m'a étonné parce que elle n'avait pas le mal de mer. C'était quelqu'un qui avait l'estomac fragile.
Ah!
Ouais, alors c'est toujours des trucs qu'on pense que, puis on estime que. Ça fait que, on a fait le tour?
Oui, les petites alors, brèves.
On va y aller après la musique. On va aller en musique, puis on va revenir avec des brèves.
Jetlag par Louisa.
On l'aime, notre Serge Bradet, parce que à ce temps-ci de l'année, c'est toujours un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde en vacances. Puis là, je dis, si tu as des sujets supplémentaires, tu peux y aller. Ben oui, puis tu nous remplis ça, c'est vraiment le fun. Puis tu as toujours des sujets intéressants. On va aller avec les nouvelles brèves.
Oui. Ouais. J'ai le plus long couvage jamais observé.
OK.
Une femelle pieuvre des profondeurs de l'espèce. Bon, l'espèce, c'est la Granelodon boreo pacifica. Elle a couvé ses œufs pendant, vous devineriez jamais, 53 mois.
Aïe, aïe.
Plus de 4 ans. Sans qu'aucun repas ne soit observé durant cette période. Je ne sais pas comment si on fait pour vérifier ça, le repas, mais en tout cas. Ce comportement représente la plus longue période de couvaison jamais observée chez un animal. Les scientifiques ont suivi la mère pieuvre dans les profondeurs du canyon de Monterey, où elle est demeurée auprès de sa ponte jusqu'à l'éclosion des œufs. Et figurez-vous que la pauvre pieuvre, elle est morte peu après.
Ah!
Ben, ça a été 4 ans sans manger, je comprends.
Ah!
Puis là, en terminant, je vais parler des Nobel.
Ah oui, des Nobel.
Oui, les prix Nobel qui ne sont pas toujours nickel, qu'on a peut-être regretté d'avoir donné, puis un Nobel est donné pour la vie. Alors, donc, qu'est-ce que les Nobel? Le 10 décembre 1893 mourait le riche industriel suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite.
Ouais.
Par testament, il chargeait ses exécuteurs de gérer son legs, l'équivalent de 240 millions d'euros actuels, donc une forte somme, une belle somme, en récompensant tous les ans ceux qui, au cours de l'année précédente, ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Il a retenu 5 disciplines, la physique, la chimie, physiologie ou médecine, littérature, promotion de la paix, auxquelles s'ajoute l'économie depuis 1969. Les lauréats sont choisis par des comités, eux-mêmes désignés par des institutions, Académie suédoise pour la littérature, l'Institut Karolinska pour la médecine, Académie royale des sciences de Suède, etc. Depuis, il y a près d'un millier d'hommes surtout, et de femmes beaucoup moins, qui ont été distinguées depuis le début, ainsi qu'une trentaine d'institutions. Si certains de ces choix sont critiquables, le règlement interdit qu'on retire cette distinction. Un prix Nobel, c'est pour la vie. Mmh. Fritz Haber, le côté obscur de la force. Le prix le plus moralement contestable est sans doute le Nobel de chimie 1918, décerné à Fritz Haber. 11 ans plus tôt, ce chimiste allemand est parvenu à fixer l'azote gazeux, principal constituant de l'air, sous forme de nitrate d'ammonium. Cette matière a permis de fabriquer les engrais azotés qui ont révolutionné l'agriculture. Ça, c'est une bonne chose. Noble motivation retenue par le comité, négligeant qu'avec ces nitrates, Haber a aussi offert à l'Allemagne une source inépuisable d'explosifs militaires. Pire, il a été à l'origine des premiers gaz de combat utilisés en 1915, au point de figurer sur la liste des criminels de guerre après l'armistice. Le comité Nobel le savait, mais il est passé outre. Antonio, 1949, Antonio Egas Moniz, une thérapie brutale. En 1949, le prix de médecine est attribué au neurologue portugais pour sa découverte de la valeur thérapeutique de la leucotomie. Leucotomie, cette pratique est mieux connue sous le nom de lobotomie. Elle consiste, pour soulager certaines maladies mentales, à détruire par chirurgie des fibres nerveuses du cortex. Et dès 1936, Moniz opère une vingtaine de patients souffrant de dépression ou de schizophrénie. Enthousiaste, il communique sans tarder sur les excellents résultats obtenus. Dès l'origine, des confrères contestent toutefois cette technique. Ses effets secondaires sont effrayants et la personnalité des personnes opérées est anéantie. La lobotomie sera pratiquée, en particulier aux États-Unis, jusqu'à l'invention des neuroleptiques dans les années 1950. Petit détail, une des sœurs de John Kennedy, le président des États-Unis, avait eu une lobotomie. Décidé, c'est le père qui avait décidé ça, le père de John Kennedy, parce qu'elle avait une vie, pour l'époque, dans les années 30, un petit peu... Elle voulait avoir des aventures, elle voulait vivre sa vie de femme, et le père a dit, Joseph Kennedy, non, ça n'a pas de bon sens. Il l'a fait diagnostiquer, il l'a enfermé, puis elle a fait...
C'est incroyable comment les choses étaient à l'époque, parce qu'elle voulait avoir une vie... qui, de nos jours, serait pas mal vu. Puis moi, je me rappelle, c'est Alice Robbie à qui on a donné des électrochocs aussi.
Elle a eu une lobotomie, je pense.
Elle a eu une lobotomie aussi. Écoute, je vais vérifier pendant que tu fais la lecture du prochain texte. Ouais.
Alors, 1973, Henry Kissinger et le Duc Thau. Blanche Colombe, point d'interrogation. Souvent décerné à des acteurs politiques par un comité lui-même composé de politiques, le Nobel de la paix est abonné à la controverse. Mais aucun ne fut plus critiqué que celui délivré en 1973 à Henry Kissinger et le Duc Thau pour la négociation d'un cessez-le-feu durant la guerre du Vietnam. Chantre des bombardements massifs sur Hanoï, Kissinger n'était pas exactement une colombe. Pas plus que le délégué nord-vietnamien, qui d'ailleurs refusait le prix. En outre, à l'automne 1973, au moment où l'Américain était distingué, les hostilités avaient repris depuis plusieurs mois.
Je confirme, Alice Robbie a eu une lobotomie. Elle était hospitalisée contre son gré. C'est son père qui l'a envoyée là. Écoute, puis tu sais, autre temps, autre mœurs, hein, mais... Ça ne fait pas si longtemps que ça.
Oui. 1926, Johannes Fibiger. Des conclusions véreuses. En ce début du 20e siècle, le cancer est une maladie difficile à étudier car impossible à déclencher en laboratoire. Le Danois Johannes Fibiger a observé sur des rats des cancers de l'estomac et au cœur de la tumeur la présence d'un ver parasite, Il en conclut que, dans ce cas précis, le verre a été le déclencheur du cancer. Cela lui vaut le Nobel de médecine. Sacré bourde, en réalité, il s'agissait de tumeurs causées par un déficit en vitamine A. Et Fibiger n'en a jamais rien su. Il est mort d'un cancer peu de temps après.
Quelle histoire.
Oui, oui, oui.
Écoute, il nous reste à peu près 40 secondes. On a le temps?
Oui.
Oui.
Mauvaise étoile, en 1974, Anthony Hewish et Jocelyn Bell. À Cambridge, l'étudiante Jocelyn Bell Burnell joua un rôle clé dans la découverte des pulsars, étoiles mortes en rotation rapide sur elles-mêmes. La gloire et le prix de physique revinrent à Anthony Hewish, son directeur de thèse. Et elle, non, n'a pas parlé.
Oh, oh mon Dieu. C'est... Le pire, c'est que je trouve ça toujours amusant d'avoir de tes nouvelles, mais des fois, c'est un peu choquant. Hein?
C'est enrageant, des fois. Enrageant. Puis il y en a d'autres, je vais les... Ah, ben,
on va les garder pour la semaine prochaine. Hey, Serge Bradet, c'est toujours le fun de passer du temps avec toi. On se revoit le mercredi prochain.
Mercredi prochain.
On s'en va en musique.
Bye.
Yeah.
Le Cirque du Soleil nous chantait Sierra Los Hoyos.
Oui, du spectacle Lousia. Très beau spectacle. Je suis allé voir en passant la semaine dernière, une nouvelle fois, Écho du Cirque du Soleil. Je ne sais pas si tu as vu ces spectacles-là qui sont au Grand Chapiteau.
Non.
Écho, c'est un spectacle très, très émouvant. J'avais amené mes amis français qui n'avaient jamais vu le Cirque du Soleil avant. Et nous avions des larmes aux yeux tellement c'était émouvant. C'est un très beau spectacle. Je pense que je le préfère à Lousia, qui pourtant était très beau show aussi. Ben là, je vais vous rappeler que au Québec, en Ontario, province atlantique, Manitoba, Saskatchewan, il y a des averses, des ennuagements, soit ce matin, soit cet après-midi. Donc, soyez à l'affût, traînez avec vous un parapluie. Et puis, le seul endroit où il n'y a pas de pluie, c'est l'Alberta, la Colombie-Britannique. C'est beau et chaud. 26 degrés, humidex 28. Après la pause, nous allons parler des nouvelles du Canada français et on va aussi parler de fierté indomptable. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Elle danse par Mimi Obunsawin.
C'est le temps de faire le tour de l'actualité canadienne francophone avec le rédacteur en chef de Franco-Presse, Julien Caillouette. Julien, bonjour.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, une perte nette de 107 unités où il est possible de travailler en français au ministère de la Défense. C'est Franco-Presse qui sort ça.
Oui, puis on en a parlé un peu la semaine dernière, puis on a continué nos recherches un peu, fait que j'ai reçu des chiffres plus précis la semaine dernière du ministère de la Défense nationale concernant justement le nombre d'unités où il y a eu des changements par rapport au droit à la langue de travail. Puis selon les chiffres du ministère, la nouvelle directive a fait passer 174 unités du bilinguisme à l'anglais,
ouais,
et 29 vers le français. Mais à travers de ça aussi, il y a des unités qui étaient unilingues et qui sont devenues bilingues. Et là, on nous dit qu'il y en a eu 67 qui sont devenues 67 unités anglophones qui sont devenues bilingues. Donc, il y a quand même un certain gain d'unités qui peuvent utiliser le français. et 78 unités francophones qui sont devenues bilingues. Donc, en tout ça, si on enlève le gain de 67 unités bilingues et la perte des 174 unités qui sont passées du bilinguisme en anglais, ça fait une perte nette de 107 unités où on pouvait utiliser le français dans tout le système du ministère de la Défense et des Forces armées. Il y a aussi, jeudi dernier, juste après qu'on se soit parlé, le ministère de la Défense a annoncé qu'il demandait une révision de cette politique-là. Donc, on peut s'attendre ils veulent analyser l'impact que ça a eu. Est-ce que le français est moins présent? Est-ce que ça limite les droits? Il y a la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui a publié un communiqué après, très rapidement, en disant qu'il avait rencontré justement le ministre la veille puis qu'il était content de cette décision-là. Mais il aurait quand même aimé avoir une étude d'impact sur les directives, voir qu'est-ce que ça avait fait aux communautés touchées par le changement. Un des exemples qu'il donne, c'est par exemple, c'est qu'il y a des villes autour des bases militaires qui étaient désignées bilingues qui ont fait des efforts pour avoir des services en français pour les familles des soldats francophones. Donc, il n'y avait plus besoin. Si le français n'était plus une langue de travail dans cette base-là, par exemple, est-ce que cela a eu un effet? Et finalement, depuis hier, il y a une pétition qui est en ligne sur le site de la Chambre des communes où un groupe demande carrément le retour au régime linguistique d'avant janvier 2025. Puis on dit qu'il ne faut pas attendre que l'examen soit fait, ça va être trop long, puis la politique va avoir le temps de s'implanter. Il faut vraiment reculer, puis ben, en moins de 12 heures, la pétition aura recueilli plus de 1000 signatures.
Puis là, il y a une campagne, en plus de ça, pour faire du drapeau acadien un emoji. C'est l'Acadie Nouvelle qui nous dit ça aujourd'hui.
C'est les artistes acadiens Julien Robichaud et Alexis Béliveau qui ont eu cette idée-là à l'approche de la fête des Acadiens, hein, qui était le 15 août, ce samedi dernier. Ils ont lancé une campagne en ligne afin que le drapeau acadien soit inclus dans les emojis standards, là, dans ce que vous avez sur vos applications, votre téléphone. Après quelques recherches, ils ont trouvé la compagnie avec qui communiquer, l'organisation qui s'appelle Unicode, qui gère cette bibliothèque-là d'emojis communs. Puis, cette bibliothèque-là contient 250 drapeaux, mais le drapeau acadien n'est pas là, évidemment, mais le drapeau québécois et franco-ontarien ne sont pas là non plus, soit dit en passant. Ils ont donc décidé d'ouvrir un site web, puis ils ont lancé une pétition dans l'objectif de déposer une demande officielle. Ils espèrent obtenir 10 000 signatures pour faire la demande. Puis il y en avait déjà 2500 à peine 12 heures après le lancement du site. Fait que pour ce cinéaste et ce musicien-là, c'est un peu une bataille de génération parce que c'est leur génération à eux qui utilise plus ces choses-là. Puis apparemment, c'est plus compliqué si on veut parler de fierté acadienne. En emoji, il faut utiliser souvent le drapeau français avec une étoile ou il y a d'autres techniques. Celle-là, c'est la plus simple apparemment. Ils sont pas pressés de finir le projet. Ils espèrent obtenir les signatures. Ils vont prendre leur temps pour obtenir les signatures et des lettres d'appui pour leur idée.
Oui, puis il me semble qu'il en crée de moins en moins des emojis, là. C'est ce que je lisais. Mais en tout cas, sait-on jamais? Hein, les choses, ça peut toujours changer. Il y a l'état des hôpitaux en Ontario. Ça serait une bombe sur le point d'exploser. Vraiment, c'est dans le droit?
Oui, il y a d'ailleurs aujourd'hui il y a une manifestation du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario qui est prévue devant un hôpital d'Ottawa pour dénoncer une coupe de 100 postes dus, selon l'hôpital, au financement insuffisant de la province. Ce même conseil-là a fait une conférence de presse la semaine dernière pour affirmer que le système de santé était sur le point de crouler sous la pression. Donc, où est une bombe, comme on dit. Il y aurait besoin de 355 millions de dollars supplémentaires par année et de 5 300 travailleurs de plus à la grandeur de la province. Le conseil nie pas que le gouvernement a augmenté le financement dans ce système. Toutefois, on dit que l'augmentation aurait été de 3,3% par année, alors que les coûts d'opération des hôpitaux ont augmenté de 6,5% par année. Selon le conseil des syndicats, sur le terrain, les conséquences, c'est les hôpitaux qui sont occupés à 100%, une augmentation du temps d'attente pour différentes opérations et les urgences, et des employés surchargés de travail qui s'absentent plus souvent.
Ouais.
Le conseil a aussi parlé du virage vers le privé qu'a pris l'Ontario depuis quelques années, notamment pour les opérations du genou et des chirurgies de la cataracte. selon leurs calculs, ça n'a pas vraiment contribué à réduire le temps d'attente pour les chirurgies de la cataracte. Puis les interventions au privé coûteraient deux fois plus cher. Les cliniques privées ne prennent pas des cas complexes. Puis quand il y a des complications, bien, c'est quand même le système de santé public qui doit en prendre charge.
J'ai l'impression que plus ça change, plus c'est pareil dans le dossier de la santé. On va aller maintenant du côté du Franco, la vérité historique fracture la communauté franco-albertaine.
Ouais, le Franco présente un important dossier sur une controverse qui dure depuis quelques semaines en Alberta. Le campus Saint-Jean, qui est l'université francophone qui opère sous l'égide de l'Université de l'Alberta, a commencé à faire des travaux de rénovation et de réfection, puis à travers de ça, ils ont retiré certains artefacts liés à la francophonie. L'un des retraits qui marque le plus les esprits, c'est le retrait d'une murale qui était dévouée à l'histoire de la francophonie albertaine, qui a été complètement recouverte. Donc, elle n'est plus visible, on ne peut plus l'observer. Elle n'a pas été conservée non plus ailleurs, on ne l'a pas démontée, on l'a laissée là, puis on a mis du revêtement par-dessus. Du côté des organismes francophones, il y a particulièrement la Société historique franco-albertaine. Ils étaient très déçus de ne pas avoir été consultés par l'université avec tout ça. On dit qu'on aurait pu trouver des façons de conserver les pièces ou les exposer parce qu'il n'y a pas de musée spécifiquement pour la francophonie en Alberta. Ce qu'il y avait au campus Saint-Jean, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un musée. Du côté du campus, ce qu'on dit, c'est que ça fait partie des efforts de réconciliation du campus. Il y a des recherches qui ont été faites avec l'aide de la Commission de vérité et réconciliation qui auraient révélé que plusieurs oblats, les pères oblats, les religieux qui ont entre autres fondé le campus, qui ont travaillé pendant longtemps, avaient aussi des liens très serrés avec des pensionnats autochtones. Donc, pas toujours des bons liens ici. Donc, on a Philippe Poiré, le responsable des relations externes, qui dit que le campus veut offrir la meilleure expérience éducative et culturelle possible aux étudiants et un meilleur environnement de travail pour les enseignants et le personnel. Et tout ça signifie qu'ils ne veulent pas oublier le passé, mais qu'il faut quand même avoir la responsabilité de reconnaître certains torts historiques. C'est ce qu'ils essayent de mettre de l'avant. Donc, tout ça, c'est juste une petite partie du dossier. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire ces deux, trois textes sur le site web du Franco.
Et puis, le spin-in fragile institution culturelle dans l'Acadie Nouvelle.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je ne savais pas que c'était encore possible de louer des DVD au Canada. Mais apparemment, il y a environ 10 endroits où c'est encore possible. Il y en aurait un à Toronto et l'Acadie Nouvelle nous en présente un à Moncton qui s'appelle le Spinit. Je précise tout de suite que le magasin de Patrick Parizé n'est pas rentable grâce à la location de DVD. Il l'est grâce à la vente de vinyles, de jeux vidéo et de figurines liées à la culture des jeux vidéo et des dessins animés, je suppose. Il compte quand même 40 000 DVD accumulés au cours des années que les clients peuvent aller louer. Puis bon, comme je disais, cette partie-là n'est pas rentable depuis plusieurs années. Donc, Patrick Parizé songe peut-être à continuer à les garder quelques temps, mais il aimerait utiliser peut-être cet espace-là de façon plus rentable. La collection offre quand même quelques avantages. C'est vrai qu'on peut voir beaucoup de choses, beaucoup de films en ligne maintenant, mais il y a certains classiques qui sont plus durs à trouver sur les plateformes de numérique. Puis, si on n'est pas abonné à la bonne plateforme, ben, on ne peut pas nécessairement écouter un titre qu'on aimerait voir. Il y a quand même des passionnés qui continuent de fréquenter son magasin. Là, il y a des gens qui vont louer des films encore toutes les semaines, dont Maurice Basque, pour qui Spinit, c'est une institution culturelle qu'il faut préserver.
Bon, ben écoute, les DVD reviennent, c'est quoi, les longs jeux, on dit les 33 tours, hein, ouais, les vinyles, ça revient aussi. Fait que c'est Back to the Future, Julien, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, bonne semaine.
Au revoir.
J'ai pas grand-chose à t'offrir, mais peut-être qu'on pourrait inverser les rôles. Avec toi, c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. On prendra la route sans même y penser, quelque part où c'est toujours le mois de mai. Rien à faire de l'argent, on pourra faire semblant que tout ceci était prévu d'avance.
la télé, c'est la guerre. Ça prend qu'un seul homme pour tout faire sauter sa terre. Avec tout le temps qui nous reste, il faudrait se bouger les fesses. On pourrait faire quelque chose, vivre la vie en rose, c'est la question que je te pose. J'ai pas grand chose à t'offrir, mais peut-être qu'on pourrait inverser les rôles. Avec toi, c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. On prendra la route sans même y penser, quelque part où c'est toujours le rodé. Rien à faire de l'argent, on pourra faire semblant que tout ça c'était prévu d'avance. Coucher la tête à l'envers, impossible de les faire. T'as rien à faire, rien à faire, rien à faire. Des voix dans ma tête qui me disent qu'on veut finir ses pieds sous terre. J'ai besoin de ta présence pour me donner des vacances. Ok. J'ai pas grand chose à t'offrir, mais peut-être qu'on pourrait inverser les rôles. Avec toi, c'est comme si j'étais.
Prévu d'avance par Tristan Gay.
Eh bien, on va parler aujourd'hui de cette autre fierté. On n'en a pas parlé cette année encore. Cette autre fierté qui a commencé l'an dernier, qui est une fierté peut-être qui se définit à l'opposé de l'aspect très commercial de Fierté Montréal, à qui on reproche ça aussi, puis d'autres aspects aussi. Puis pour en discuter, bien, je pense qu'on peut parler, on va parler avec Samia Amrani. Samia Amrani est une des personnes qui a fondé cette fierté indomptable et aussi connue sous le nom de Wild Pride en anglais, un mouvement militant et alternatif donc qui est né à Montréal en 2025. Allô Samia, bienvenue à l'émission.
Allô Denis Martin, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Alors que ça, c'est terminé là, t'as eu le temps de te reposer un petit peu?
Oui, ben pas vraiment parce que je travaille, mais ça va. Au moins mes soirées sont un peu plus calmes.
Bon, juste pour les gens qui des fois ne suivent pas toujours l'information, est-ce qu'on peut revenir sur comment ça a commencé sa fierté indomptable en 2025?
Absolument. Donc moi je suis avocate de formation, mais je suis également membre du CA de Halem Montréal. Halem Montréal, c'est un organisme par et pour les communautés Swana, donc les communautés diasporiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui sont queer ici à Montréal. Mm-hmm. Et au lendemain du 7 octobre, donc le génocide à Gaza qui a repris de plus belle, on a commencé des échanges avec Fierté Montréal pour que Fierté prenne une position par rapport à ce génocide, mais également se désinvestisse et arrête ses partenariats avec des banques et d'autres partenaires qui investissent dans le génocide perpétré par Israël. Ce sont des longues batailles, des longues discussions qui ont donc commencé en 2024. En 2024, on a décidé de quand même marcher dans le défilé. Pour cette première édition post-début de génocide, on avait décidé de faire un die-in. Donc, pendant la minute de silence, on avait décidé de se coucher par terre et de se verser du sang dessus afin de montrer notre solidarité envers nos adelphes palestiniens qui n'avaient plus accès aux soins pour le VIH, donc en raison du siège qui est sur Gaza en ce moment. Et l'année d'après, ben, on a décidé de créer notre propre fierté. Entre-temps, il y a eu un momentum qui a aussi été créé par le fait que plusieurs organismes et collectifs SAFIC, donc surtout de lesbiennes, qui ont décidé de également dénoncer les pratiques de Fierté Montréal, cette fois-ci pas par rapport au génocide en Palestine, mais vraiment par rapport à leur contrat d'artiste et aussi de la discrimination et de la misogynoire, donc de la misogynie perpétrée spécifiquement envers les femmes noires dans le milieu artistique. Donc, notamment Sweet Like Honey, Blush, Elle Lui et Girls Days Rave et Disco New. Donc ça a créé un momentum pour que les gens nous écrivent pour nous dire là cette année comment on fait pour fêter la fierté sans se sentir tout crush, tu sais, d'encourager ces pratiques-là et ne pas se sentir représenté parce que c'est une autre chose qui est pointé du doigt pour Fierté Montréal, pardon, c'est ce manque de représentativité et de diversité. Et donc, c'est comme ça que Fierté Indomptable est née l'année passée. Et on a eu une très belle deuxième édition de
Nîmes. Oui, on va y revenir parce que je pense que je vais te poser la question que beaucoup de personnes posent parce qu'ils se disent, ben, en quoi le génocide en Palestine a-t-il à voir avec les droits LGBT?
Mais en fait, c'est la question de l'humanité. Pour moi, qui suis et queer et marocaine, la question palestinienne a toujours fait partie de mon quotidien. Et pour moi, si tu veux m'accepter en tant que personne queer, tu dois aussi m'accepter en tant que personne marocaine. Et c'est la même chose pour une personne palestinienne queer, par exemple. Donc pour nous, toutes les luttes sont interconnectées. Et je sais que c'est difficile pour plusieurs personnes de comprendre ça. Il y a aussi souvent cette idée comme quoi, ben, si tu allais en Palestine, les gens ne t'accepteraient pas. En ce moment, c'est pas de ça qu'on parle. En ce moment, on parle de le génocide de nos adelphes, le génocide gratuit, dans le sens, il n'y a pas de motif qui justifie ça. Il n'y aura jamais de motif qui justifie un génocide. Et il y a beaucoup de pinkwashing et d'homonationalisme qui est utilisé aussi pour redorer l'image d'Israël. Récemment, il y avait aussi la question de la Pride à Tel Aviv qui devait être une super grosse Pride. Donc, ces questions-là sont souvent utilisées, instrumentalisées par Israël pour justement redorer leur image, pour qu'on ferme les yeux sur les bombardements quotidiens à Gaza.
Alors, votre mouvement accorde une place centrale, donc on l'a dit, aux luttes intersectionnelles. Dans cette deuxième édition, vous avez organisé votre propre marche et des événements parallèles dans les rues de Montréal. Est-ce que ça a fonctionné? Moi, j'ai fait les deux marches. J'avoue que je suis allé me promener de l'une à l'autre. Là.
Oui.
Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on peut réussir à faire deux événements parallèles et qu'il y aura des gens pour les deux?
Ben, moi, je trouve que oui. J'étais sur le comité organisateur de la marche cette année. C'est sûr que je pense que l'année passée, il y avait un plus gros engouement. Les gens étaient comme curieux de savoir qu'est-ce qui se passait. On était aussi très proches du parcours, du trajet de Fierté Montréal. Donc, je pense que c'est normal que l'année passée, il y avait peut-être une plus grosse présence, une présence d'ailleurs qui nous a tous surprise, parce que moi, je me rappelle quand j'ai vu cet afflux de gens arriver, j'en avais les larmes aux yeux parce qu'on s'attendait à être une centaine peut-être. Mmh. Cette année, on a marché dans le village des lesbiennes.
Oui.
Donc, un trajet complètement différent de celui de Fierté Montréal, parce que notre objectif était d'être le plus accessible possible. L'année passée, il a fait très chaud, donc on voulait éviter le plus possible les îlots de chaleur, et en traversant le village des lesbiennes, en partant du parc Jeanne-Mance vers le parc La Fontaine, le trajet était plus court, plus accessible, et on n'a pas eu super chaud. Puis en même temps, on a pu s'arrêter à différents endroits qui ont été importants dans l'histoire des lesbiennes à Montréal.
Oui.
Mais oui, ça a fonctionné et c'était magnifique, vraiment.
Oui,
vraiment, je suis très touchée.
Je vais rappeler que Samia, tu as été aussi cette année une des porte-parole de la journée de visibilité lesbienne, c'est quand même pas rien. À côté de Manon Massé, c'est quand même bon pour toi. Écoute, je sais qu'il y a eu quand même des efforts cette année. J'ai reçu à Canalem le directeur général par intérim là, de Fierté Montréal, Gino Montero, qui semble dire, ben écoute, on va trouver une façon de garder le contact, d'ouvrir la discussion, essayer de régler des problèmes. Mais il dit quand même qu'il y aura toujours peut-être cette deuxième fierté pour ceux qui se sentent peut-être moins inclus dans la fierté plus commerciale. Et aussi, ben, c'est plus qu'il y a d'espace, mieux c'est. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as le même sentiment?
Ben, moi, c'est bien. Je pense que la fierté indomptable, d'année en année, on améliore nos pratiques. Tu te rappelles l'année passée quand tu m'avais reçu, Denis Martin, je te disais qu'on était peut-être une dizaine maximum de bénévoles qui s'occupaient de l'organisation. Cette année, on était une quarantaine.
Ah, quand même.
C'est sûr que je trouve ça difficile parce que c'est quand même 40 personnes. Moi, je trouve ça magnifique de voir que 40 personnes ont eu le désir de se mobiliser pour cette deuxième édition de Wild Pride. Mais je trouve ça triste que nous, on le fasse sans argent, sans être rémunérés. J'aimerais ça un jour voir cette possibilité pour nous d'être payés, tu sais, parce que c'est du travail gratuit, c'est du travail invisible. La plupart d'entre nous, on a une job, tu sais, moi, pendant la fierté indomptable, j'avais quand même mon 9 à 5 d'avocate, plusieurs personnes ont continué de travailler, donc c'est sûr qu'il y a toujours cette iniquité. L'autre élément que je trouve quand même surprenant de la part de Higino, c'est de dire que le dialogue va être ouvert. Notre dernier courriel qui lui a été envoyé est toujours sans réponse. Donc j'ai hâte de voir s'il va éventuellement reprendre contact avec nous. Tu le sais, on s'est rencontrés plusieurs fois, Denis Martin, et je t'apprécie beaucoup. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je t'accorde toujours une entrevue. Mais tu le sais que j'ai aussi, je suis une personne raisonnable et les canaux étaient toujours ouverts entre Fierté Montréal et Fierté Indomptable. D'ailleurs, c'est nous qui avons repris contact avec eux cette année. Je suis allée à leur conférence de presse pour l'annonce des événements parce que j'avais vraiment espoir qu'on puisse tenter de trouver des solutions pour coexister. Et je t'avouerai que je suis un petit peu fatiguée. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler l'an prochain. On va voir qu'est-ce qu'on reçoit comme courriel. Mais c'est sûr que nous, pendant notre festival, on n'a pas eu de retour à nos courriels. Donc, tu vois, cette année, on n'a pas essayé de bloquer la fierté. On n'a même pas essayé de leur... On n'a rien fait. On a juste coexisté. On s'est concentré sur notre propre fierté. Puis je pense que c'est ce qu'on veut faire, en fait.
Il va falloir demander qu'il y a une façon de vous financer, parce que c'est pas normal que les gens travaillent. Moi, je sais, c'est beaucoup de travail organiser des événements comme ça. Ouais. C'est pas normal de ne pas être payé. Là, on peut pas demander aux gens de faire du bénévolat tout le temps. Écoute, on va souhaiter que ça fonctionne. Moi, j'avoue que je suis beaucoup plus... Je suis beaucoup plus content d'entendre, même si c'est pas encore parfait, même s'il y a encore des choses, des coins qui retroussent, je suis content de voir que c'est un petit peu mieux que c'était l'an dernier, parce que je trouvais ça un peu triste là, que tout le monde soit un peu à couteau tiré. Là.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Je ne sais pas si c'est nécessairement mieux, mais c'est beaucoup de fatigue, donc on n'a plus l'énergie de justement se battre. Je dirais pas que c'est nécessairement mieux, par contre.
OK. Bon, ben écoute, on va souhaiter que les choses s'améliorent quand même. Merci beaucoup, Samia. Merci. Puis je te souhaite un bon succès pour l'année prochaine.
Merci beaucoup, Denis Martin. Bonne
Merci.
Journée. Bye-bye.
C'est la fin de... Je t'ai pas dire l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ça, c'est fou comment est-ce qu'on a des habitudes. C'est la fin, donc, de cette édition de l'émission Au quotidien. On est très, très heureux que vous soyez là avec nous. Merci, Maurice Bolduc. Mon vieux pote, on a travaillé ensemble longtemps. C'est un petit retour cette année. C'était toi et moi ensemble. Merci aussi à toute l'équipe de Canalem. Oui, de Canalem qui nous appuie là-dedans. Cette belle aventure. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je remplace Hélène Denis encore jusqu'au 31 août et elle sera de retour le 1er septembre. À très bientôt, demain 9h30.